Il est 18h sur France Inter. C'est à vous, Fabienne Sintès.
Et merci, Charline, et merci d'être là aujourd'hui également. Allez, on est parti pour le 18-20 de France Inter. Poussez la porte et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Comme tous les soirs, on commence avec le premier journal du soir. C'est le vôtre, Hélène Roussel, bonsoir.
Bonsoir.
L'essentiel de ce mercredi, il y aura un procès Sarkozy. La Cour de cassation a rejeté son tout dernier recours. L'ancien président sera donc jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. On y revient dès le début de ce journal. Et sinon, Hélène?
Quatre suspects et un procès après la catastrophe du vol MH17 en Ukraine. Le soulagement des familles de victimes. Nous irons aux Pays-Bas. Le bazar dans les salles de classe, plus que chez nos voisins. Étude de l'OCDE. Un problème de formation continue des professeurs. Malaise en plein service national universel. 25 jeunes tombent comme des mouches. Le coup de chaud hier à Évreux. Taxer les plaisanciers pour renflouer la SNSM. La proposition du député de Dieppe. Et puis la promenade des Anglais à Nice avant le match. Angleterre-Japon ce soir, mondial féminin de foot.
À 18h15, un jour dans le monde en Grande-Bretagne aujourd'hui. Parce que demain, on aura le tout dernier carré. Les deux derniers hommes, même remplaçant potentiel de Theresa May. Et surtout celui qui caracole en tête, c'est toujours Boris Johnson. Alors à quoi ça peut ressembler un Bojo Premier ministre? C'est aux représentants des conservateurs en France qu'on a eu envie de poser la question ce soir. Nous sommes également au Japon avec des pères qui cherchent leurs enfants. Et puis le téléphone sonne. Tiens, vous en parliez, Hélène, à l'instant. Nous avons tous vu les images. On a aussi vu les premiers pas de ce service national universel qui a donc démarré dimanche dernier. Ce soir, on s'interroge sur le but. Comment voudrait-on qu'ils en sortent, les enfants de ces 15 jours-là? Avec quel bagage? Quel avantage? Quels avantages pour après? On parle de cohésion nationale, on parle de fraternité. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Ça se passe au 01 45 24 7000. Nicolas Sarkozy, donc, sur le banc des prévenus.
Oui, l'ancien chef d'État sera bien jugé dans l'affaire dite des écoutes. La Cour de cassation a rejeté ce matin son tout dernier recours. Et pour la première fois sous la Ve République, un ancien président va être jugé pour corruption. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Hélène.
On peut le rappeler, hein, cette affaire des écoutes est sortie alors même que Nicolas Sarkozy faisait l'objet d'une autre enquête.
Oui, tout est parti de l'enquête menée par les juges d'instruction du pôle financier de Paris sur les soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de 2007. Les magistrats décident en 2013 de surveiller le téléphone de l'ancien président de la République. Ils découvrent qu'il utilise une ligne secrète ouverte au nom de Paul Bismuth pour parler avec son avocat Thierry Herzog. Et les juges surprennent début 2014 des conversations qui les intéressent. Nicolas Sarkozy et son avocat espèrent obtenir de Gilbert Azibert, un magistrat de la Cour de cassation, des informations confidentielles à propos du dossier Bettencourt. À ce moment-là, les juges bordelais, les bâtards de Bordeaux, comme les qualifie au téléphone Maître Herzog, ont saisi les agendas de l'ex-président. Alors en échange de ces informations, Gilbert Azibert espère un coup de pouce de Nicolas Sarkozy pour être nommé conseiller à Monaco. Alors ces supposées manœuvres seront vaines, pas de nomination à Monaco pour le haut magistrat. Quant à la Cour de cassation, elle a validé la saisie des agendas de Nicolas Sarkozy, mais le seul fait d'avoir essayé est punissable par la loi. C'est ce qui vaut aux trois hommes d'être renvoyés devant le tribunal correctionnel pour corruption et trafic d'influence. Les derniers recours étant épuisés, le procès devrait se tenir dans les prochains mois.
Un procès, il y aura donc. Corinne Audouin, merci. Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d'influence. Qu'en pense-t-on à droite? Philippe Gosselin, député LR.
C'est évidemment un élément qui est compliqué à gérer. C'est un président de la République il y a quelques années qui disait que parfois la merde, ça volait en escadrille. C'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que le porte-avions n'est pas très loin et que les escadrilles décollent par vagues régulières. On peut se dire aussi qu'il y avait un peu de mauvais produit dans le ventilateur et que quelqu'un a appuyé sur le bouton du ventilateur et que tout le monde s'en prend plein la figure, on va le dire comme ça. Mais c'est ainsi. Allez, l'accumulation de mauvaises nouvelles finira bien par nous permettre de dégager le ciel à un autre moment.
Que de philosophie au micro de Maxence Lambrecq. Quand le politique est rattrapé par la justice, le parquet vient de demander le renvoi en correctionnel pour prise illégale d'intérêt du sénateur socialiste des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini. Et puis là, c'est le bout du bout d'un procès fleuve, une très longue file d'attente, une salle d'audience pleine à craquer. Dernier jour du procès Balkany, la parole à la défense cet après-midi avec la plaidoirie d'Éric Dupond-Moretti. Le maire de Levallois, accusé de blanchiment, de fraude fiscale et de corruption passive, risque jusqu'à 7 ans de prison ferme et la confiscation confiscation de tous ses biens, ainsi que 10 ans d'inéligibilité. La réponse, ce sera pour le 18 octobre, compte rendu de cette toute dernière audience, en tout cas tout à l'heure dans le journal de 19h.
Quatre noms, quatre visages derrière la catastrophe du vol MH17.
Il y a 5 ans, un Boeing de la Malaysia Airlines qui assure la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur s'écrase en Ukraine dans la zone séparatiste pro-russe. À son bord, 298 personnes, aucun survivant, des victimes néerlandaises pour la plupart. L'avion a été la cible d'un missile russe et aujourd'hui, les enquêteurs internationaux ont donc donné les noms des 4 suspects. Un soulagement pour les familles sur place, Johan Hauenstein.
Des noms et des visages, c'est ce que les enquêteurs internationaux ont pu fournir aux familles des victimes aujourd'hui. Un soulagement pour Silène Fredericks qui a perdu son fils de 23 ans et sa belle-fille dans l'accident. Mais le quotidien reste très éprouvant pour cette mère néerlandaise.
Non, ça ne va pas mieux. Des jours comme ça, c'est très stressant. On n'a pas dormi de la nuit. On attend ce jour depuis 5 ans. Maintenant, on a une date, on peut se concentrer sur le 9 mars 2020.
C'est à cette date, le 9 mars 2020, que débutera le procès des 4 suspects inculpés aujourd'hui. Il s'agit de 3 militaires russes, dont l'ancien ministre de la Défense de la République autoproclamée de Donetsk, Igor Girkin, c'est son nom, et d'un Ukrainien lié au service de renseignement des séparatistes. Ils sont soupçonnés d'avoir commandité le tir du missile Buk à l'origine de la destruction de l'avion. Ils seront jugés pour meurtre, risquent la prison à vie et devront comparaître devant la justice néerlandaise. Mais les familles des victimes craignent que les suspects ne soient pas présents physiquement dans le box des accusés le jour J. Les constitutions ukrainiennes et russes n'autorisant pas les extraditions de leurs nationaux. Johanna Hauenstein, France Inter, à Nieuwegein, aux Pays-Bas.
Une actualité judiciaire décidément bien chargée ce mercredi. Cette fois, c'est le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman qui est visé. Une experte des droits de l'homme de l'ONU a enquêté pendant 6 mois et estime qu'il y a suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête. C'est l'affaire Khashoggi, du nom de ce journaliste critique du pouvoir saoudien, mort brutalement en octobre dernier à l'intérieur de son consulat en Turquie. Riyad a déjà réagi d'un haussement d'épaule cet après-midi. Rien de neuf dans ce rapport sans fondement, dit un ministre. En bref, 466 départs volontaires chez Sanofi, pôle recherche et développement en Allemagne, mais surtout en France. Le chiffre est tombé cet après-midi, c'est encore plus que prévu. C'est aussi le troisième plan du groupe en quelques mois. La résistance à Belfort contre le plan social chez General Electric. Le maire LR Damien Meslot a refusé de louer une salle à la direction pour sa réunion avec les syndicats. Réunion censée lancer ses suppressions de postes. Et puis un coin de ciel bleu chez Airbus. American Airlines a passé un accord pour commander 50 A321. Pas de précision sur le montant, mais ce sera juteux, on peut.
Il est 18h07 sur France Inter. Hélène, les enseignants français sont motivés, mais ils ont du mal à maintenir l'ordre dans leur classe.
C'est l'OCDE qui le dit. Un tiers des enseignants en France disent rencontrer des problèmes de discipline, beaucoup moins chez nos voisins. Les élèves français seraient-ils plus dissipés que les autres? Non, c'est simplement une question de formation continue largement insuffisante en France pour Karine Tremblay, experte éducation à l'OCDE.
Quand on demande aux enseignants quel est le contenu de la formation initiale qu'ils ont reçue, seulement 2 sur 3 indiquent qu'ils ont eu un contenu sur la discipline qu'ils vont enseigner, mais aussi du contenu en pédagogie et en pratique de la classe. Un autre aspect sur lequel la France se distingue plutôt négativement, c'est que 19% des enseignants en France ont uniquement une formation de contenu sur leur discipline, mais aucune formation en pédagogie et en pratique de la classe.
Et ce manque de formation à la gestion de la classe, il a des conséquences concrètes face aux élèves ensuite ?
Oui, on a effectivement en France une proportion assez élevée d'enseignants qui peinent à gérer leur classe. On en a 35% en fait qui sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle au début de la séance, ils doivent attendre assez longtemps avant que les élèves se calment, par exemple, alors qu'on est seulement à 28% pour la moyenne de l'OCDE.
Karine Tremblay de l'OCDE, jointe par Alexis Morel. Légalisation du cannabis thérapeutique en France, on n'y est pas, mais c'est un premier pas. Seule une poignée de médecins spécialistes et volontaires va pouvoir prescrire du cannabis thérapeutique à partir de l'année prochaine. Le comité d'experts chargé du dossier a dévoilé son projet ce matin, évoque une expérimentation. L'Agence nationale de sécurité du médicament devrait donner son feu vert la semaine prochaine. Un arc-en-ciel républicain contre la privatisation d'aéroports de Paris. Meeting à Saint-Denis ce soir en banlieue parisienne avec l'opposition mélangée. LR, PS, Insoumis, Communistes, tous pour soutenir le référendum d'initiative partagée. On ira faire un tour dans le journal de 19h. Coup de chaud chez les jeunes. Réunis pour une cérémonie, immobiles en uniforme sous un soleil de plomb, ils n'ont pas tenu le choc. Engagés dans le service national universel à Évreux, ces jeunes se sont écroulés, 25 tout de même, victimes de malaise hier. Jérémy Dojoie est étudiant infirmier, il est allé leur porter secours, il les a surtout vus tomber les uns derrière les autres comme des mouches.
Au départ, je vois 2-3 jeunes qui font des malaises. Bon, jusqu'ici, quand on fait des cérémonies, on peut le voir, les jeunes ils supportent mal la chaleur, il y a le stress, ça arrive. Sauf qu'en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est de voir que les jeunes se portaient secours entre eux. L'expression « tomber comme des mouches », c'est exactement ça. Et là, je me suis dit « non, c'est pas possible, il faut que quelqu'un aille voir ». Quand je suis arrivé, je voyais les agents de la sécurité de la mairie qui étaient complètement débordés. Donc on a commencé à gérer le petit groupe qui commençait à arriver. Donc il y en avait 4-5 qui faisaient des malaises, des vrais malaises. Et il y en avait une dizaine qui avait juste un coup de chaud, qui était étourdi. Puis ensuite est arrivé 3 pompiers. Et là, tout le monde a commencé à tomber un par un. Ce que j'ai appris après, c'est que les jeunes, en fait, ils sont restés au soleil tout le long de la cérémonie. C'est complètement scandaleux, hein.
Et pendant ce temps-là, les discours officiels continuaient ?
Ouais, comme si de rien n'était, les discours continuaient. Et, ouais, c'était choquant, ouais.
Il faut être dur. Un témoignage recueilli par Antoine Sabac de France Bleu Normandie. Le service national universel en phase pilote qui devrait coûter moins d'1,5 milliard d'euros. C'est ce qu'a dit le secrétaire d'État Gabriel Attal. On en reparle tout à l'heure avec vous Fabienne Saintès dans Le Téléphone Sonne.
Avec notamment Gabriel Attal d'ailleurs.
Un bracelet électronique pour tenir les ex-conjoints violents à distance. L'urgence de la situation est réelle. 24 élus de tous bords du Val-d'Oise écrivent à la ministre de la Justice. En moins de 6 mois, disent-ils, 4 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, rien que dans ce département. Quand les 3 sauveteurs de la SNSM sont morts noyés au large des Sables d'Olonne, il y a un peu plus de 10 jours, très vite les projecteurs ont été mis sur le manque de moyens. Alors, pourquoi ne pas aller prendre l'argent là où il est ? Sébastien Jumel, député communiste de Dieppe, propose une contribution de chaque plaisancier pour permettre à la SNSM de respirer un peu.
C'est pas une taxe. Quand vous prenez votre forfait de ski, dedans, il y a le financement des pisteurs, des secouristes. Et ben, quand vous prenez votre bateau, une assurance dans laquelle on prévoit une contribution de 5 euros pour un bateau de moins de 5 mètres par an, de 10 euros pour un bateau entre 7 et 12 mètres, jusqu'à 30 euros pour les plus gros bateaux. C'est pas la mer à boire. La mer est un espace de liberté, mais c'est aussi un espace dangereux. Ce que je sais, c'est que la flottille est vieillissante. Ce que je sais, c'est qu'il y a des besoins de formation. Ce que je sais, c'est que plus un bateau est moderne, plus l'équipé pour tous les temps, et il y a des enjeux de renouvellement de flottille, parce que la flottille a vieilli à la SNSM. C'est une mission régalienne de l'État. Il s'agit de la sécurité maritime. Elle ne peut pas s'asseoir simplement sur la générosité des donateurs et sur un financement de 30% un peu aléatoire de l'État et des collectivités locales.
Le député Sébastien Jumel répondait à François Rosy. Pour lui, c'est plié au moins jusqu'à novembre. Le joueur le plus cher du monde, 222 millions d'euros, ça vaut toujours le coup de le rappeler. Neymar ne disputera pas les 3 prochains matchs de la Ligue des Champions. L'UEFA a rejeté l'appel du PSG. Le Brésilien reste suspendu pour insulte envers l'arbitre. C'était en mars dernier face à Manchester. Le foot sur la pelouse, ça donne Japon-Angleterre. Le match de la soirée du mondial féminin de foot. Coup d'envoi à 21h à Nice. Et les Anglais toujours en promenade de ce côté-là. Maxime Baquier reportage.
Et on peut dire que pour mettre l'ambiance, ce sont les Anglaises qui gagnent.
Allez, allez, allez!
4 londoniennes croisées à la sortie d'un pub sur le cours Saleya, la peau presque aussi rouge que le maillot de leur équipe nationale après une après-midi à la plage.
On est là pour le match mais aussi pour les vacances. On arrive du Havre où se jouait le dernier match. On a profité de la plage cet après-midi. On espère rester en France jusqu'à la finale mais d'autres équipes sont très fortes. Les États-Unis sont les favorites.
Un peu plus loin sur la promenade des Anglais, on croise Misko et Yuko, 2 japonaises qui profitent du match pour découvrir la Côte d'Azur.
Nous sommes allés à Menton, à Vence, on profite du soleil, la nourriture est merveilleuse. C'est presque l'Italie ici, c'est très beau.
Et tout à l'heure, elles vont découvrir le stade de Nice qui risque de sonner un peu creux. 14 000 billets vendus seulement sur les 35 000 disponibles.
Bon, en même temps, l'enjeu est tout relatif. Les 2 équipes, Angleterre et Japon, sont déjà qualifiées pour les 8e. L'autre match, toujours à 21h, Écosse-Argentine. Pas de mondial pour lui, cette fois c'est du rugby, alors Bastaro ne veut plus s'en mêler. Le Toulonnais Mathieu Bastaro n'a pas été retenu par le 15 de France pour la Coupe du Monde. À 30 ans, il plaque tout et annonce sa retraite. Enfin, on vous en parlait ce matin, le revolver qui aurait servi au peintre Van Gogh pour se tuer. Eh bien, il a été vendu, ce revolver tout rouillé, et plus que bien, 162 500 euros, estimé au départ au maximum à 60 000. Évidemment, l'acquéreur préfère rester discret.
Et on ne sait pas s'il marche encore, d'ailleurs.
Non.
Rouillé, donc apparemment, enfin, on peut comprendre pourquoi. Allez, Hélène, merci beaucoup, et à tout de suite, Hélène, dans Un jour dans le monde.
Oui, avec Los Angeles, le comté aux États-Unis, figurez-vous, où il y a le plus de condamnations à mort. De la dentelle pour sauver la barrière de corail, et puis un peu de Maria Carré, de polonium pour faire le gâteau, je vous en dis pas plus.
Allez, on a un peu vu ça sur les réseaux sociaux. Et ce soir, on va aussi demander aux représentants des conservateurs en France qu'ils pensent de la perspective d'avoir Boris Johnson en Premier ministre, parce que la perspective est en train de se rapprocher. Nous irons également au Japon avec des pères sans nouvelles de leurs enfants. Et puis le téléphone sonne, je vous le remets dans l'oreille. Maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble, on parlera de ce service national universel. Son installation s'est faite, le pilote en quelque sorte, avant la généralisation. Donc à quoi veut-on que ça serve? Quel bagage dans les pactages de ces jeunes gens de 16 ans? Est-ce que effectivement, parce que c'est le but, vous avez le sentiment que ça aidera à la cohésion nationale, à la fraternité aussi? On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et Sébastien Léas, encore des averses et des orages ce soir et demain?
Oui, de nombreuses averses orageuses arrosent actuellement encore le nord-ouest, mais aussi la Lorraine et entre l'Auvergne et le Lyonnais. Et puis un nouvel axe d'averses va se mettre en place ce soir entre les Pyrénées et le Massif central. Et cet axe va progressivement se décaler en cours de nuit vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, puis la Franche-Comté et l'Alsace pour s'évacuer demain matin. Cette nuit, une dégradation pluvieuse et orageuse va aussi aborder les Hauts-de-France, le bassin parisien et les Ardennes, puis concernera le quart nord-est demain après-midi. Dans le sud-ouest, après une matinée calme mais plutôt grise, les averses orageuses vont reprendre l'après-midi et pourront même donner de la grêle vers l'est des Pyrénées. Et puis sur le Massif central et les Alpes, il faut aussi s'attendre à des averses et des orages demain après-midi.
Et sinon, retour au calme donc dans le nord-ouest.
Oui, après les averses d'aujourd'hui et puis la perturbation de la nuit, les conditions vont s'améliorer. Dès demain matin, les éclaircies seront belles entre le Boulonnais, la Vendée et la Bretagne. L'après-midi, l'amélioration va même s'étendre à l'ensemble des Hauts-de-France, au bassin parisien, à la Touraine et jusqu'aux Charentes. Autour de la Méditerranée, le soleil sera assez généreux demain, mais le temps sera plus mitigé et nuageux sur le Languedoc-Roussillon, avec même quelques débordements d'averses possibles. Et puis côté température, les maximales seront en baisse demain, avec même une forte baisse entre le sud-ouest et le nord-est. Il fera 18 à 25 degrés en général, avec 22 degrés pour Paris, Metz, Nantes et Aurillac par exemple. Ambiance un peu plus chaude sur le quart sud-est, avec des maximales grimpant encore entre 24 et 32 degrés demain après-midi.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup Sébastien, tout à l'heure après 19h.